Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Nous avons besoin d'espérance pour vivre et nous croyons que la Bible nous offre la véritable espérance.
Robert est de nouveau notre invité et il va poursuivre ses discussions avec Yann.
Nous parcourons ensemble la vie d'Abraham, que vous pouvez lire dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur le chapitre 17, dans lequel nous lisons que Dieu a établi une alliance avec Abraham. Le mot « alliance » et sa signification biblique ne sont pas forcément très connus. Pouvez-vous nous expliquer, Robert, le sens de ce mot?
Selon le dictionnaire, une alliance est une union contracté par un engagement mutuel. Autrement dit, il s'agit d'un accord formel entre deux personnes ou deux parties à vivre une certaine relation entre elles.
Cela a encore l'air un peu abstrait. Pouvez-vous citer des exemples d'alliances que nous pouvons rencontrer dans la vie aujourd'hui?
Oui, l'alliance la plus courante aujourd'hui est celle du mariage. Quand un homme et une femme décident de se marier, ils prennent des engagements mutuels à vivre une certaine relation ensemble. Cette relation est privilégiée et exclusive, c'est-à-dire qu'ils vivront avec leur mari ou leur femme une relation qu'ils ne vivront avec personne d'autre. Ils se font réciproquement des promesses, la promesse d'être fidèle jusqu'à la mort, la promesse d'aimer l'autre dans toutes les circonstances de la vie, et ainsi de suite. Un signe de cette relation privilégiée entre deux personnes est l'anneau que l'on porte souvent au doigt. Un anneau qui s'appelle une alliance, car il rappelle les promesses faites à l'occasion de la cérémonie du mariage. Il est vrai que les coutumes qui entourent le mariage peuvent varier d'un pays à l'autre, mais le fond demeure le même. C'est cet engagement réciproque à vivre quelque chose de fort ensemble.
Et y a-t-il d'autres exemples d'alliances que nous pouvons rencontrer aujourd'hui?
Quand deux pays signent un traité de paix ou autre, nous pouvons dire qu'ils entrent en alliance l'un avec l'autre. Encore une fois, il s'agit de deux parties qui s'engagent mutuellement à tenir certaines promesses réciproques. La promesse de s'abstenir de toute agression, par exemple, ou bien des promesses concernant le commerce.
Mais pour revenir à Abraham, avec qui est-il entré en alliance?
Il est entré en alliance avec Dieu. Mais il serait plus juste de dire que Dieu est entré en alliance avec Abraham, car c'est Dieu qui a pris l'initiative. C'est Dieu qui est allé vers Abraham pour lui proposer une alliance. Ensuite, il ne s'agit pas d'une alliance simple entre deux personnes, Dieu et Abraham, mais cette alliance devait inclure aussi la famille d'Abraham et tout son entourage. De plus, il s'agissait d'une alliance qui allait au-delà de la vie d'Abraham pour inclure ses descendants. Je cite Genèse chapitre 17 et verset 7. C'est Dieu qui parle. « J'établirai mon alliance avec toi, puis après toi avec tes descendants, de génération en génération, pour toujours. Ainsi je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. »
Mais Abraham n'avait pas eu de fils par sa femme Sarah quand cette alliance a été établie, me semble-t-il.
C'est exact. Mais dans le cadre de cette alliance, Dieu a répété les promesses qu'il avait déjà faites à Abraham. Il aura un fils de sa femme, et il aura des descendants qui deviendront une nation avec ses propres terres dans le pays de Canaan. Maintenant, ces promesses, déjà faites à plusieurs reprises, font partie de cette alliance. Elles font partie des engagements formels que Dieu honorera sans faute.
Nous savons que Dieu est fidèle, et nous pouvons avoir la certitude qu'il accomplira ses promesses. Pourquoi fallait-il donc que Dieu répète ses promesses pour les insérer dans une alliance très formelle?
Mettons-nous à la place d'Abraham un instant. Il attendait l'accomplissement de la promesse depuis 20 ans au moins, et il devait se demander par moments si Dieu était à la hauteur de sa parole. Souvenez-vous qu'il n'avait pas toute la Bible à sa disposition pour le prouver. Ainsi, je vois dans cette alliance un cadeau de grâce que Dieu fait à Abraham, afin de fortifier sa foi, afin d'insister sur le fait que ses promesses étaient solides, qu'il ne devait pas avoir de doute là-dessus. Nous avons un Dieu qui s'abaisse pour parler à notre niveau. Si nous avons besoin d'alliances pour encadrer nos engagements, Dieu peut prendre cette convention pour montrer jusqu'à quel point nous pouvons compter sur lui.
Alors, dans cette alliance entre Dieu et Abraham, il y a bien d'autres promesses qui apparaissent. Dieu dit notamment, « Je serai ton Dieu ». Comment comprenez-vous cela?
Oui, ici, nous retrouvons l'idée d'une relation privilégiée qui s'établit entre deux personnes. Abraham et ses descendants bénéficieront de l'amour fidèle de Dieu d'une manière beaucoup plus proche que pour les autres nations. Dieu sera avec eux et pour eux, et non pour les autres.
Mais cela veut-il dire que nous ne sommes pas inclus dans cette alliance du moment où nous ne sommes pas juifs?
Ah, voilà une question capitale. Mais avant d'y répondre, il faut ajouter que le privilège de cette relation avec Dieu s'accompagnait de responsabilités. De sa part, Abraham et son entourage devaient s'engager à être fidèles à Dieu. En signe de leur appartenance à Dieu et de leur fidélité à cette alliance, chaque mâle dans la maison d'Abraham devait se faire circoncire. Tous les descendants d'Abraham devaient passer par là aussi. Pour répondre à votre question, il était possible, bien que difficile, pour un non-israélite de devenir membre de ce peuple et ainsi d'hériter des promesses de l'alliance avec Abraham. Toutefois, nous pouvons dire aujourd'hui que Dieu a établi une nouvelle alliance qui est offerte et ouverte aux hommes et femmes de toute nation.
Qu'est-ce donc cette nouvelle alliance? Y a-t-il une relation avec l'alliance établie avec Abraham?
Lisons ensemble quelques paroles de l'évangile de Matthieu. Pendant son dernier repas avant de mourir sur la croix, Jésus, je cite, « prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang ». Le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Donc, la nouvelle alliance vient par Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection. Cette alliance est pour beaucoup, c'est-à-dire qu'elle dépasse les frontières politiques et raciales d'Israël. Toutefois, souvenez-vous que Dieu a fait la promesse à Abraham que l'un de ses descendants sera une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Jésus-Christ est ce descendant. Et pour nous, c'est par la nouvelle alliance que nous pouvons recevoir la bénédiction de Dieu et avoir l'assurance que ce Dieu est notre Dieu.
Nous avons vu que les alliances posent des promesses et des engagements réciproques. Comment donc adhérer à cette nouvelle alliance et quels engagements implique-t-elle?
Il y a un résumé fort utile dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. Je cite. Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. Dieu s'engage donc à pardonner nos péchés. Il s'engage aussi à nous accorder le don de son Esprit. Afin d'entrer dans cette alliance et de bénéficier de ses promesses, Dieu attend de nous deux démarches. La repentance et le baptême. Par la repentance, nous voulons dire qu'il faut changer de direction dans la vie. Parfois, vous pouvez vous rendre compte que vous avez pris la mauvaise route pour vous rendre à votre destination, et il faut rebrousser chemin. La repentance implique ce demi-tour. Avant, nous dirigions nos propres vies, mais pour entrer dans la nouvelle alliance, il faut laisser Jésus régner sur nos vies.
Merci Robert de nous avoir rappelé que Dieu tient ses promesses. Cela nous incite à réfléchir à nos engagements envers lui et à vouloir les respecter.
À plusieurs reprises dans la Bible, Dieu a promis la délivrance et la liberté. Yuva en parle alors qu'il médite sur des versets trouvés dans l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 17 et 18. Hélène va nous les lire.
On donne à Jésus le livre du prophète Ésaïe. Il ouvre le livre et trouve le passage suivant. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres.
Sera-ce une bonne chose de relâcher des prisonniers du lieu de leur incarcération? Ces individus sont souvent dangereux et nous ne voulons pas laisser en liberté des personnes qui menacent la vie et les biens des gens. Mais réfléchissons un instant au propos de Jésus. Car quelque part, nous sommes tous des prisonniers. D'abord, un prisonnier est quelqu'un qui a été condamné pour avoir commis un crime. Mais la Bible dit que nous sommes tous, sans exception, fautifs, coupables devant Dieu. Ensuite, un prisonnier est quelqu'un qui ne peut échapper à ses conditions de vie. Il est contraint de rester entre quatre murs. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. De même, nous sommes tous prisonniers du péché, prisonniers de mauvaises habitudes destructrices qui sont tellement enracinées dans nos vies que même lorsque nous désirons en changer, cela tient de l'impossible. Ceci est évident pour les comportements qui créent des dépendances, comme la toxicomanie, l'alcoolisme, le tabagisme, mais c'est tout aussi vrai pour les passions telles que la haine et la violence, la convoitise et les désirs illicites. En quoi consiste donc la liberté que Jésus offre d'apporter aux prisonniers, c'est-à-dire aux femmes et aux hommes pécheurs, tels que vous et moi? D'abord, Jésus peut lever les condamnations qui pèsent sur chacun d'eux à cause de leur faute. Un criminel entre en prison parce qu'un jour, un juge l'a trouvé coupable et l'a condamné à subir une peine pénitentiaire. Pour être libéré avant son terme et voir sa condamnation levée, il faut que le prisonnier soit gracié, ce qui peut arriver, mais seulement dans des circonstances exceptionnelles. La mort est la juste peine qui pèse sur le pécheur. La mort est en trois étapes. D'abord, la mort spirituelle, son incapacité à connaître Dieu et à marcher avec lui. Ensuite, la mort physique, l'arrêt de la vie telle que nous la connaissons. Et enfin, la mort éternelle, le fait d'être exclu de la présence de Dieu à jamais. La bonne nouvelle apportée par Jésus nous offre la liberté, car par la foi en Christ, nous sommes graciés par Dieu. Notre condamnation est levée, les accusations portées contre nous sont annulées. La liberté consiste d'abord en la possibilité de renouer une relation avec Dieu, tout comme un prisonnier relâché peut reprendre des relations normales, sans restriction avec sa famille et ses amis. Jésus apporte la liberté de connaître Dieu et de cheminer avec lui. Ensuite, la liberté qu'offre Jésus consiste en une puissance qui nous aidera à briser le péché, qui nous rend prisonniers de ses habitudes destructrices. Jésus envoie l'Esprit de Dieu sur les siens et cet Esprit est là pour nous accorder la liberté de dire non au péché et oui à une vie juste et bonne.
Yuva nous fait découvrir la richesse de la grâce de Dieu en nous parlant de la mission que Jésus est venu accomplir parmi les hommes. La dernière fois, il a parlé de la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Aujourd'hui, de la liberté apportée aux prisonniers du péché. Et la prochaine fois, il parlera de Jésus qui redonne la vue aux aveugles.
Pour en savoir plus, écoutez donc notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui. Nous y parlerons une dernière fois de la vie d'Abraham. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine.
Au revoir et que le Dieu qui est fidèle à ses promesses vous rende réellement libre.